Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Très bon début de week-end, RTL vous régale. J'annonce que la boutique est ouverte jusqu'à 11h30, on l'a levé le volet. Hein, l'enseigne affiche spécialité de Montpellier. On va donc passer cette fin de matinée à quelques kilomètres de la Méditerranée, à l'ombre de quelques très jolis vestiges médiévaux. Et puis au rayon des surprises, l'ancêtre du parachute, un jardin des plantes et un arbre magique. Ouais. Explication dans les prochaines minutes avec mes camarades. Alors entre bord de Montpellier et Escalette, laissez-moi vous présenter les deux sybarites qui m'accompagnent. Vous l'avez, Sybarite, ou pas ?
Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Oui. Allez-y. Se dit d'une personne qui mène une vie molle et voluptueuse dans une atmosphère de luxe et de raffinement.
Ah, je rêve.
Ça vient de Sybaris, cette ville grecque dont les habitants étaient réputés par être parmi les plus jouisseurs de l'Antiquité.
Voilà.
Je ne sais pas, je trouvais que ça vous convenait. Si Montpellier est célèbre pour sa faculté de médecine, il a quant à lui la faculté de se soigner au Pic Saint-Loup, dont il prolonge le traitement sans avis médical. Mesdames, messieurs, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Comment vas-tu ?
Ça, pas mal.
Et Lise, tu vous allez bien ?
Très bien, merci.
Médecine
bien.
Toujours bonjour et encore, avec celle qui vous fera découvrir la grisette, ce petit bonbon descendant des apothicaires montpelliérains. Voici la pharmacienne en chef, Louise Petit-Renaud.
Bonjour, je vais vous soigner ce matin.
Et le blanc vous va bien. Et puis on poursuit le traitement sans avis médical, puisque le défi frigo sera de retour à 11h, à gagner ce matin un week-end au château de Mercues, qui domine la vallée du Lot, près de Cahors, avec un repas au restaurant étoilé Le Duez, où le chef Julien Poisseau vous fera vivre une expérience culinaire autour des saveurs du Quercy. Pour jouer avec nous, c'est simple. Vous appelez le 3210 par téléphone ou vous envoyez le mot régal suivi de votre ingrédient par SMS au 64 900. Je vous rappelle que vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 11h30 pour nous appeler. Je vous souhaite bonne chance. Et puis dans la playlist de cette régalade dans l'Hérault, la délicieuse Clara Luciani. Dois-je vous rappeler que nous sommes le 11 septembre, nous voulions impérativement rendre hommage à cette date.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel.
En attendant le retour annoncé de Renault, pour le coup, en 2002, aux côtés d'Axel Red, avec Manhattan Cabo, la RTL vous régale, c'est parti jusqu'à 11h30. C'est un voyage hebdomadaire. Vous me voyez venir, hein ?
Ouais, je l'ai.
Bon, évidemment qu'elle est là. 10h, 11h30, c'est sur RTL. On vous emmène dans l'Hérault, soyez les bienvenus.
Au-dessus des vieux volcans.
1987. Voilà donc, hein, je le rappelle, ce qui arrive quand on enfile un col roulé, quand on a les cheveux mouillés, désirless, voyage, voyage sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Bonne matinée sur RTL, on vous emmène à Montpellier, ville qui possède depuis longtemps un pouvoir d'attraction hors du commun, on va vous le prouver. Jean-Seb, c'est une des grandes villes étudiantes de France. C'est une ville qui offre une qualité de vie qui plaît pas qu'aux étudiants, d'ailleurs ça plaît à tout le monde, Montpellier.
Ben oui, parce que d'abord, à Montpellier, on est à quelques kilomètres de la Méditerranée. Ensuite, la ville, elle plaît aux amoureux d'ambiance médiévale, avec ses vénérables bâtisses historiques. Le quartier de l'Écusson, le quartier ancien, a gardé ce plan médiéval qui a été dessiné au XIIIe siècle. Et on découvre à chaque coin de rue une placette ombragée. C'est tout le charme de la ville. Ce charme, on le doit aussi et surtout aux façades des hôtels particuliers des 17e et 18e siècles. Et toutes ces maisons, qui sont relativement sobres d'aspect, cachent des cours intérieures lumineuses, fraîches, avec des escaliers monumentaux, avec des décorations absolument extraordinaires, généralement derrière des toutes petites portes qui ne payent pas de mine.
Mais oui, d'ailleurs, je crois que c'est le plus grand secteur piéton de France. Et il y a quelques belles halles, comme par exemple les halles de la place Castellane, qui sont d'ailleurs ouvertes tous les jours, ou encore les halles Les Sacs. Et on trouve des commerçants mais formidables, des bouchers, des charcutiers, des fromagers, poissonniers. Je trouve ça mais génial, agréable de pouvoir se faire plaisir à tout moment de la journée.
Les halles de Les Sacs, qui sont juste à côté, en bordure de ce quartier de l'Écusson, juste à côté de la tour de la Babote. Et c'est là qu'en 1783, un certain Sébastien Lenormand, natif de Montpellier, testa une invention qui ne s'appelait pas encore le parachute. À l'époque, son affaire ressemble quand même à un parasol géant, plus qu'à un véritable parachute. Vous en doutez, ses essais lui valurent quelques fractures. Mais finalement, son travail et ses souffrances furent payants et il a sauvé un certain nombre d'aviateurs ensuite. Bien des années plus tard.
Ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux. Et puis l'autre visage de Montpellier, c'est évidemment toute la ville moderne. C'est Antigone, qui a été imaginée par l'architecte Ricardo Bofill.
Alors Bofill, qui avait déjà conçu Marne-la-Vallée ou Saint-Quentin-en-Yvelines, mais 1800 mètres, c'est la longueur des Champs-Élysées. Il a conçu autour de cet axe de 1800 mètres un nouveau quartier de style néoclassique. Tout ça est sorti de terre à partir de 1979. Le décor est grandiloquent. Antigone qui a été imaginé sur un ancien champ militaire. Et le centre commercial, le Polygone, qui fait la frontière en fait avec ce nouveau quartier, a été bâti lui-même sur l'ancien Polygone de tir. Et il y a des ajouts architecturaux de grands architectes qui viennent du monde entier, qui augmentent et qui harmonisent tout cela au fur et à mesure du temps.
Montpellier, ville de culture, Montpellier, ville de musée aussi.
Il suffit d'évoquer Jacques Coeur. Jacques Coeur a pris la cité en affection dès 1432. C'était le grand argentier de Charles VII. On le connaît surtout pour ce qu'il a fait à Bourges. Mais il a fait de Montpellier une véritable république marchande. En 1530, Rabelais, lui, débarque à Montpellier. Il est prêtre, il a 40 ans et il vient étudier la médecine. Gargantua et Pantagruel ne sont pas encore publiés, ça ne vient que quelques années plus tard. La faculté de médecine, elle, vaut le coup d'œil, comme le conservatoire d'anatomie, qui est un des endroits les plus secrets de la ville. Et puis il y a le jardin des plantes, qui a été fondé en 1593 par Henri IV pour l'étude des plantes médicinales. C'est aujourd'hui le plus ancien jardin universitaire de France. Il y a des allées sublimes, il y a une bambouseraie, et puis on trouve un arbre magique qui est pratiquement un arbre mystique.
Ah, je l'adore cet arbre, c'est l'arbre à message, l'arbre à souhait. C'est ne sais pas si vous connaissez.
Ça marche
alors,
comment
on peut, alors, depuis longtemps, on peut y venir déposer ses rêves, ses espoirs et on peut même déposer des mots d'amour.
Ça a fonctionné ?
Ouais, j'adore.
Avant d'aller au musée Fabre, qui est un des musées les plus surprenants à découvrir tant il est riche et varié, il faut aller faire une petite balade dans les jardins du Pérou. Il y a une statue équestre de Louis XIV que tous les Montpelliérains connaissent. Elle a fait du chemin hein, pour arriver à Montpellier. Elle a été fondue à Paris. Elle a rejoint Le Havre, Bordeaux. Ah oui. Le bateau a navigué sur la Garonne, puis sur le canal du Midi jusqu'à Frontignan. Là, on a creusé un canal spécial pour l'emmener jusqu'à Montpellier. Mais il y a une autre anecdote à cette histoire. Il s'avère que le sculpteur se serait suicidé après s'être aperçu qu'il manquait un élément. Les étriers royaux. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étriers. Mais en plus, c'est pas la vraie statue. parce que l'original, elle a été fondue à la Révolution. On l'a refaite depuis. Donc, c'est difficile de savoir, de démêler le vrai, du faux et de la légende.
Bon, on démêlera le vrai du faux, en tout cas, tout à l'heure, sur le coup. 11 heures, vous le savez, puisque c'est le retour du défi frigo de cette semaine. Vous allez nous donner un ingrédient et Jean-Sébastien et Louise auront 1 minute 30 pour en faire deux recettes originales. Vous allez gagner ce matin, je le rappelle, un week-end au château de Mercues, c'est la vallée du Lot, on est près de Cahors. Alors je vous l'ai dit, un repas au restaurant étoilé, le Duez, où le chef Julien Poisseau va vous faire vivre une expérience absolument incroyable autour des saveurs du Quercy. Vous jouez avec nous pendant toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30. Vous nous appelez au 3210 au standard d'RTL ou par SMS en envoyant le mot Régal, c'est simple, suivi de votre message, c'est-à-dire l'ingrédient, au 64 900. Bonne chance à tous. Alors quand on est dans le Languedoc, quand on est dans l'Hérault, forcément on se prend à rêver et on se dit qu'on va remplir notre panier d'RTL vous régale avec des choses absolument exceptionnelles.
Trois petites choses, évidemment.
Évidemment. On vous raconte tout dans un instant, à tout de suite sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Louise Petit-Renaud et Jean-Sébastien Petit-Demange, ce matin dans RTL vous régale, on est dans le Languedoc. Alors quand on dit Languedoc, moi quand on me dit Languedoc, c'est simple. Hein. Je pense évidemment au vin.
Ah oui.
Ah ben au vin de la région.
Ça, et pas que le Languedoc.
Et pas que le Languedoc.
C'est un vignoble immense qui s'étale le long du littoral méditerranéen, de Leucate à l'ouest jusqu'à Nîmes et la Camargue à l'est, et qui couvre les contreforts des Cévennes jusqu'au port de Carcassonne. Ça parcourt trois départements, l'Aude, le Gard et l'Hérault. Il offre une diversité de paysages et une mosaïque de terroirs assez phénoménale. Il suffit de parler des Corbières, hein, par exemple. Mais c'est vrai que dans les environs proches de Montpellier, il y a une appellation que j'aime particulièrement, c'est celle de Pique-Saint-Jean.
Moi aussi.
C'est un vignoble. Alors, Philippe Forbrac, lui, carrément, dit que c'est le plus beau vin du monde.
Meilleur sommelier du monde.
C'est un vignoble qui se trouve à 20 km de Montpellier. Et c'est une appellation qui couvre 15 communes de l'Hérault dans un environnement absolument spectaculaire, dominé par la pointe acérée du Pique-Saint-Loup. C'est de la Syrah, associé au Mourvèdre ou à la Grenache, qui offre des vins rouges qui sont très denses, avec des arômes intenses de fruits rouges et de réglisse. Ça, retenez le mot, ça n'est pas pour rien, c'est pas un hasard.
Réglisse, ça va revenir. Hein.
Les rosés, eux, sont toniques, sont fruités, et ça fait partie des vraiment très très beaux flacons qu'on peut trouver dans la région des Pique-Saint-Loup.
Bon, j'ai envie de vous dire, on a presque l'essentiel, on a du Pique-Saint-Loup, mais il y a d'autres choses à rapporter forcément. Il y a un petit gâteau qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'escalette de Montpellier.
C'est un gâteau sec de la famille des gaufres et des oublis. C'est du sucre, du beurre, des œufs et de la farine. Il faut en faire une pâte très ferme, et puis on découpe des boudins de pâte qu'on aplatit légèrement avant de les faire cuire dans des moules type moule à gaufres. C'est pas du tout évident à trouver, ça se fait beaucoup dans les familles maintenant, essentiellement, mais alors c'est fin délicieux.
Alors vous savez que sur le plateau de cette émission, le plateau à fromage de cette émission, il y a la maîtresse affineuse d'RTL Vrégal.
La fidèle maîtresse. Mais oui, je vais vous parler du Pérail AOP. C'est un fromage au lait entier de brebis Lacone qui a un goût vraiment unique. C'est un fromage, un petit fromage à pâte molle et à croûte naturelle. Alors, il est produit dans une zone un peu à cheval sur l'Aveyron, la Lozère, l'Aude, l'Hérault, le Tarn et le Gard. Ce fromage trouve une raison dans son lait, parce qu'à un moment donné dans l'année, le troupeau d'une famille ne produit plus assez, enfin pas assez de volume de lait pour faire le fromage emblématique de la région qui est le Roquefort, mais il faut quand même continuer de faire vivre sa famille et son foyer. Donc c'est pour ça qu'avec le moins de et le peu de lait qu'on a, on fabrique ce fameux Pérail.
Sur les marchés de Montpellier, on trouve des choses étonnantes.
Oui. Vous avez jamais entendu parler du citre?
Je vous avoue que je ne connaissais pas.
C'est très étonnant.
Je vois même pas à quoi ça ressemble. Depuis que vous m'en avez parlé,
c'est un cucurbitacé, c'est une
cousin de la pastèque.
Cousin de la pastèque, c'est un peu un melon d'eau extérieur, c'est un peu verdâtre. Et puis la chair est blanche, c'est légèrement teinté de rose, c'est immangeable cru. C'est clair, ça ne se mange pas cru.
Mais qu'est-ce qu'on en fait du coup des confitures?
Alors on en fait soit des fruits confits, ou alors on fait des confitures. Et la confiture de citre, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Donc soit vous trouvez le fruit et vous en faites des confitures, soit vous avez des vendeurs de confitures qui vous vendent de la confiture. Mais c'est magnifique.
Choix cornélien.
Non, c'est pas difficile. Moi j'achète le pot comme
le
ça
citre.
Ça va plus vite.
Et on achète surtout des huîtres.
Être ou ne pas.
Oh là, ça y est, ils sont partis. Bon, bah, c'est pas grave, je partage pas mes huîtres, je les garde que pour moi. Moi, je vous parle des huîtres de Bouzigues,
évidemment.
Elles sont nées, ces huîtres, en 1875 à 7, et elles sont élevées traditionnellement dans les eaux riches de la lagune de Thau. Donc, ça va de Bouzigues à Metz et Marseillan. Vous avez vu, je suis très géographie aujourd'hui. Je veux être très précise. Alors, elles se distinguent vraiment des huîtres de l'Atlantique par leur mode d'élevage. C'est le collage, on appelle ça comme ça. C'est une technique qui est réalisée encore aujourd'hui à la main et qui permet d'avoir des huîtres d'une forme qui va être très régulière. Alors pourquoi ? Mais parce que tout simplement, il n'y a pas de marée sur la lagune de Thau. Les ostréiculteurs ont dû inventer donc des techniques bien spécifiques pour coller les huîtres sur des cordes en suspension et donc les mettre dans l'eau, les ressortir, reproduire le va-et-vient de la marée.
C'est une technique absolument hallucinante, effectivement. Moi, j'aimerais qu'on me serve quelques huîtres de l'étude de Thau et puis du bon pain. Et sur ce pain,
je vous ai trouvé une vieille recette.
Voilà.
Ça s'appelle le beurre de Montpellier. Vous prenez du cresson, de l'estragon, du persil, du cerfeuil, quelques épinards que vous faites blanchir pendant 3 minutes. Vous pressez le tout très fort pour égoutter. Vous pilez dans un mortier et vous incorporez de l'échalote, des cornichons, des câpres, des anchois, de l'ail, un jaune d'œuf, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. En fait, ça fait un peu aioli vert.
On se croirait dans un défi frigo.
C'est pas mal, ouais.
Non, mais à partir de là, dans ce mélange, vous mettez un beurre mou et vous mélangez tout ça. Et vous avez un beurre qui est d'une incroyable saveur, qui est idéal pour mettre sur des poissons blancs ou sur une belle côte de veau.
Oh ouais.
Ah oui.
Brisée. C'est un
ou même
truc...
avec du pain.
Oh, c'est
alors,
bien,
c'est un peu fort sur du pain.
Ah oui.
Oui, c'est quand même un goût. Mais alors, sur une côte de veau, c'est un truc de ouf.
Ça c'est dit.
Voilà, je suis un peu sous le choc et je suis même étonné de constater que Louise Petit-Renault respire encore. C'est le titre de la chanson qui arrive, championnat du monde. Voici Clara Luciani sur RTL.
Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure au son timidité, une insolence chorégraphiée.
Elle veut pas s'asseoir, ça a trop duré. L'immobilité.
second extrait de l'album Cœur, l'album de Clara Luciani sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30,
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
On vous emmène à Montpellier en ce début de week-end dans RTL vous régale avec Jean-Seb et Louis. Si je vous dis les amis Calisson, vous répondez
Ex.
Si je dis bêtises, vous dites
Correct.
Si je dis réglisse
Montpellier. Ah, justement.
Soyez honnête. Au départ, personne ne pense nécessairement à Montpellier. Pourtant, l'histoire de la réglisse et Montpellier remonte à la fin du 15e siècle. Magali Osier est à la tête de la maison Osier Chabernac, une confiserie créée en 1923. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans RTL vous régale. Alors, on va être précis. Pour bien comprendre l'histoire de la réglisse et de Montpellier, il faut remonter à la fin du Moyen-Âge. On parlait de lui tout à l'heure, il y a Jacques Coeur.
Voilà, l'histoire commence, enfin, avait commencé un peu avant, mais c'est surtout développé avec Jacques Coeur qui s'est installé à Montpellier, à la fin du Moyen-Âge, et donc qui était un commerçant et qui a fait fortune sur Montpellier. Et il avait toute une flotte de navires qui partaient du port de Lattes et qui commerçaient dans le bassin méditerranéen.
Il allait vers le Maghreb, il est allé jusqu'au Soudan, je pense.
Voilà, il est allé jusqu'au Soudan, et donc le Soudan, c'est là où est récoltée la gomme arabique, qui sert de base à tout ce qui est bonbon à la réglisse chez nous. Et donc c'est avec ce commerce de gomme arabique et de racines de réglisse, puisqu'elle poussait spontanément dans le bassin méditerranéen, qu'il a ramené toutes ses épices à Montpellier. Mmh. Et comme Montpellier était réputé pour sa faculté de pharmacie et de médecine déjà à l'époque, c'est rentré dans la préparation des médicaments de l'époque.
Magali, justement, il faut préciser, parce que vous parlez de médicaments, préciser qu'à cette époque, la réglisse était connue surtout pour ses vertus médicinales. Est-ce qu'elle en a vraiment? Est-ce qu'elle en a toujours aujourd'hui? Est-ce que ce bonbon a vraiment des bienfaits?
La réglisse, oui, elle est reconnue depuis l'Antiquité. Hein. On a déjà les Babyloniens qui l'utilisaient soi-disant pour guérir la peste. Les Romains s'en servaient également pour la digestion. Donc on retrouve la trace de l'utilisation de la réglisse depuis la nuit des temps. Ensuite, même actuellement, c'est reconnu par la Commission européenne sur les bienfaits de la réglisse, qui est très bonne pour la digestion. Ça continue à être utilisé et ça rentre dans la composition de beaucoup de préparations de médicaments.
Mmh. Je parlais de bonbons et de réglisse il y a quelques instants, mais c'est parce que Louise nous en parlera dans quelques minutes. On va évoquer un bonbon qui est à base de miel et de réglisse. Je ne vais pas le dire, le nom tout de suite. On va vous laisser le choix. Voilà, le suspense. Magali, dans les années 30-40, on compte une dizaine de confiseries fabricants sur Montpellier. Et alors vous êtes nu bon, vous êtes les derniers confiseurs. Vous avez surtout conservé le savoir-faire de l'époque. C'est-à-dire faire de la réglisse, ça prend du temps, on ne se rend pas compte. Hein.
Oui, tout à fait. Il y avait pas mal de réglisseries à l'époque, puisqu'il y avait cette tradition de réglisse qui remontait au Moyen-Âge. Donc c'était passé sur la confiserie. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillaient la réglisse. Et nous, on est les derniers à continuer à fabriquer sur Montpellier depuis 3 générations. Et c'est un produit, oui, nous on continue d'avoir les recettes traditionnelles. C'est-à-dire on n'a rien changé sur les basiques. C'est-à-dire que tout ce qui est pâte vanille, réglisse au miel, réglisse coupée, qu'on appelle par exemple la réglisse coupée, on l'appelle la véritable réglisse de Montpellier.
C'est la plus pure?
C'est la plus pure. Il n'y a que du sucre de réglisse, de la gomme arabique et du sucre. Elle est dressée sur des plateaux. On la fait sécher pendant 15 jours, 3 semaines. Puis on la retourne pour la faire sécher de l'autre côté. On recommence 15 jours, 3 semaines. Donc c'est un processus très long. Ensuite, on l'enlève du plateau et on la découpe à la main. Donc voilà. Donc c'est un produit qui est toujours compliqué à fabriquer, qui demande beaucoup de technique, beaucoup de patience. Et souvent, nos consommateurs, ils sont patients. Alors, ils savent que c'est long. Donc, ceux qui aiment la réglisse, ils savent que c'est un produit qu'il faut mériter. Mmh. Après, la pâte vanille, c'est pareil, c'est le même processus, c'est un peu moins long à sécher, mais c'est le même processus. C'est une pâte qui est battue, qui est aérée, qui est montée sur des plateaux en bois, dans de l'amidon, qui est retournée, qui est séchée, qui est ensuite coupée.
C'est un produit qui fait appel à beaucoup d'imagerie, ça appelle le voyage, etc. Est-ce que vous continuez aujourd'hui encore à faire venir justement les matières premières de ces différents pays du monde dont on parlait il y a quelques instants, la gomme arabique, la poudre de réglisse?
Toujours, c'est toujours les mêmes sources d'approvisionnement. C'est voilà, le Soudan, le Tchad pour la gomme arabique. Donc on la fait venir directement de là-bas. Elle prend 3 semaines, 1 mois pour arriver avec les bateaux. Ensuite, tout ce qui est sucre de réglisse, ça va être l'Iran ou alors l'Italie, parce que l'Italie est très réputée pour sa réglisse de Calabre.
Pour qu'on comprenne bien, en fait, c'est un peu comme le sirop d'érable. On fait une petite entaille dans l'arbre et ça coule.
La gomme d'acacia, c'est issu de l'acacia sénégal. Donc c'est une incision sur l'écorce. On fait une blessure à l'arbre. En fait, Et donc, vous avez cette résine qui coule et ensuite on la récolte. Ça fait comme une petite boule d'ambre qui sont durant. On la récolte comme ça et nous, on la reçoit en l'état et on la concasse et ensuite on la broie et on la fait fondre pour avoir le liant qui va permettre de fabriquer le bonbon. Et en plus, c'est un produit qui est tout à fait naturel puisqu'il n'y a aucun.
Il n'y a pas d'additif,
il n'y a pas de transformation. Ça arrive comme directement du Soudan comme ça. C'est utilisé directement dans nos préparations. Il n'y a pas de transformation. Et c'est un produit qui est très bénéfique également, qui est très riche en fibres, qui est un prébiotique naturel. Voilà, il y a toutes les vertus.
Voilà, si vous voulez découvrir les bonbons de la maison, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous les acheter sur votre site osier-chabernac.com. Merci Magali Osier.
Merci à vous.
Merci.
On vous embrasse, bonne journée.
Merci, au revoir.
RTL vous régale.
Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.
C'est elle qui l'a fait. Enfin, c'est elle qui a conçu.
Qui l'a pensé.
C'est la petite gourmandise de Louise, comme tous les samedis dans RTL vous régale. Écoutez ça.
Ah, premier indice.
La Chebelebeleblek est une boîte.
Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal hésité pour choisir ma petite gourmandise du jour. Et j'ai décidé de jeter mon dévolu sur les grisettes.
Vous avez jeté votre dévolu.
Et tout mon cœur et tout ce que vous voulez. Parce que déjà, premièrement, c'est très bon. Mais parce que surtout, c'est le plus vieux bonbon de France. Alors forcément, il fallait qu'on se penche sur le sujet.
Alors qu'est-ce que c'est? On n'a pas encore goûté. Hein.
Mais pourquoi vous avez déjà goûté, vous, Jean-Sébastien?
Parce qu'il ne respecte pas les codes.
Non, mais la gourmandise de Louise, il faut m'écouter avant.
Oui, mais
j'ouvre la boîte, je vois des petites billes noires.
Ouvrez votre petite boîte. Donc vous pouvez voir que c'est un petit bonbon en forme de petite bille noire saupoudrée de sucre blanc. Et à l'intérieur, on découvre deux produits emblématiques du Languedoc. Le miel, qui est notamment de Narbonne, et la réglisse, comme on vient d'entendre parler, qui est la spécialité de la ville de Montpellier. Juste deux petites secondes avant de goûter, il faut que vous écoutiez l'histoire parce qu'il faut remonter un petit peu dans le temps. Leur consommation de ces grisettes remonte au Moyen-Âge parce qu'elles sont issues d'un savoir-faire ancestral détenu par les fameux apothicaires montpelliérains. Cette recette alors aurait été créée en 1150 à la faculté de médecine car en effet, le miel et la réglisse sont des remèdes naturels. Et là, ça a été le succès garanti. Ça devient une confiserie à part entière. Elles sont bonnes. Elles font du bien à la santé, elles ont des vertus adoucissantes, antiseptiques. Bon, vous êtes en train de goûter, Jean-Sébastien, je vois.
Je peux y aller là parce que
allez-y les garçons.
Je n'y tiens plus.
Goûtez parce que notamment elles soulagent les maux de gorge. Comme ça, vous allez avoir une voix jeune et suave.
Salut toi.
Voilà, hein, c'est l'effet grisette, c'est pas mal, non?
Salut grisette.
Alors quand je vous parle d'un vrai succès, notamment les commerçants montpelliérains s'en servaient aussi comme monnaie d'échange avec les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que rien de mieux que ce petit bonbon planqué dans la poche pour accompagner ces marcheurs et leur donner un peu de réconfort. Hein ? Décrivez-moi la chose.
D'abord, ma voix a changé.
Voilà, vous êtes jeune, vous êtes devenu jeune.
Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire.
Non, arrêtez, parlez-moi des grisettes. Est-ce que vous avez la réglisse?
Je ne l'ai pas encore, la réglisse. C'est d'abord le miel, d'abord.
Est-ce que vous sentez que ça fait du bien?
Non, je suis du bio. On peut pas s'emballer non plus.
Vous êtes vraiment sympa.
Non, mais c'est
bon,
sympa.
Bon, je continue.
On ne se retrouve pas dans un état d'extase absolue.
Et bah, d'un coup, vous avez une voix jeune. Ça y est, moi je l'entends.
C'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est
mais
ça.
Comme souvent, vous savez
qu'on. J'ai pas beaucoup de goût, hein, quand même. Hein,
arrêtez.
Je vous dis ce que je ressens.
Je suis pas d'accord. Ah, du goût, ça en a.
J'ai l'impression d'être à l'école maternelle.
Vous savez, non, mais blague à part. J'ai l'hydromel qui arrive là, comme ça.
Oui. Et c'est bon. Non, mais ça fait du bien parce qu'on adore la rillette, mais c'est pas forcément très bon pour le corps. Alors que là, c'est bon et pour la santé. Mmh. Bon, écoutez la fin de l'histoire, s'il vous plaît. Mais comme souvent, ces spécialités, eh ben, elles tombent un petit peu aux oubliettes, au XXe siècle notamment. Mais comme nous sommes dans un pays de tradition, de transmission et qu'on adore ça, dans les années 60, un certain Raymond Muller retrouva par hasard dans un vide-grenier la fameuse recette des grisettes. Et qu'est-ce qu'il nous a fait Raymond? Eh ben, il a créé sa confiserie et il a remis au goût du jour ce vieux bonbon, la grisette de Montpellier, on le remercie.
Dans un vide-grenier, donc.
Dans un vide-grenier, on peut tout trouver dans un vide-grenier. Même des animateurs radio.
Ça aurait dû s'appeler la grognette.
Et si on fait une petite mise à jour, en 2017, il y a 3 investisseurs qui rachètent la marque de Raymond Muller afin de pérenniser la réputation, la recette de ce petit bonbon. Et Il est beau, il est bon, il fait du bien. Alors, comme dirait l'autre, la grisette, c'est pas aux oubliettes.
Mais quelle poésie de Louise.
C'est très, très violent. Hein. Une fois qu'on a passé le miel. Une fois qu'on a passé le miel, ça envoie. Hein.
C'est-à-dire que là, t'attaques la boîte. C'est joli comme petite boîte. Ça me rappelle. Non, mais ça me rappelle les petites boîtes de. C'est les petites boîtes à pilules des grands-mères. Ouais, ouais. C'est joli. Grisette de Montbellier, le bonbon historique.
Exactement. Et c'est vous connaissez l'histoire maintenant.
Le truc, ça fait changer deux fois la voix en fait. Ça fait une voix très bien. Mais alors, dès qu'on attaque la réglisse.
Bon, la semaine prochaine, je vous donne tout autre chose.
Moi, je connais un truc qui va vous laisser sans voix aussi dans un instant. C'est le défi frigo qui est de retour dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Dans un instant, l'info d11h sur RTL. Dans RTL vous régale, nous accueillons Tony à Montrouge. Tony, bonjour.
Oui, bonjour.
Et
bonjour,
bienvenue, Tony. Bienvenue sur RTL. Tony, qu'est-ce qui vous amène dans RTL vous régale ce matin? Expliquez-nous à quel moment vous vous êtes dit je vais appeler la fine équipe.
Ben, alors déjà, j'avais l'habitude de regarder vos. D'écouter vos émissions, et puis je suis fan de cuisine. Donc dès qu'on peut me parler d'une nouvelle recette, je suis toujours preneur.
Fan de cuisine, c'est-à-dire que vous cuisinez vous-même ?
C'est vrai que moi, quand je rentre chez moi, je n'ai pas l'habitude de me faire des pâtes avec du jambon blanc et un petit geste de
ah,
de
c'est
ketchup,
bien, Tony.
C'est pas le genre.
Même si c'est quand même
vous
très
avez,
bon. Hein.
Vous avez frappé à la bonne porte. Est-ce que c'est vous, le fameux Tony de Montrouge, dont tout le monde parle, célèbre pour son lapin au cidre ?
Exactement, tout à fait. Ça fait partie de, on va dire, mes plats référents.
Bon, vous arrivez, Tony, avec un ingrédient qui est l'objet du défi frigo. L'enjeu de ce samedi matin, il s'agit de...
L'oignon de Trébon.
Ah ! On en a parlé,
alors,
c'était...
Justement, on en a parlé, ouais. Particularité, on le rappelle, de l'oignon de Trébon.
Il se digère bien comparé aux autres oignons.
Il est sucré. C'est pour ça qu'il est très bon.
Voilà. Tony qui vient d'envisager à l'instant le calvaire que j'endure chaque semaine dans cette émission. Vous ne bougez pas de recette originale dans quelques instants. Et quoi qu'il arrive, vous le savez déjà, Tony, je vous annoncerai une très bonne nouvelle d'ici quelques instants. Pour l'heure, vous écoutez RTL. Il est 11h.
Jacques, je peux savoir pourquoi vous êtes comme ça, intégralement vêtu de rouge. C'est pas Noël encore.
Mais parce qu'on reçoit quelqu'un qui adore le rouge.
À Romanov, vous voulez dire?
Oui.
Ah, vous l'avez pas croisé là, dans les loges?
Non.
Ah, bah, ça bipe plus en rouge maintenant.
C'est pas vrai.
Alors, Maline. Bon, bah voilà. Bah, vous distribuez des cadeaux, on dit que c'est Noël.
Bah, oui,
on se retrouve à 11h30 pour refaire la télé.
Là, mais c'est gentil.
Avec Anne Romanov. Elle a beaucoup changé et on en parle.
Ah, oui.
À tout de suite.
10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Je suis vache, mais je suis réglo.
Ça a le mérite d'être clair. À l'ambiance du défi frigo tous les samedis. Louise, vous êtes prête?
Ah, bah toujours moi.
Jean-Sébastien fourbit ses armes.
Moi, le lapin au cidre là, de Tony me met en émotion.
Ah, donc, ça fait plaisir, merci.
Tony, de l'oignon de Trébon, c'est l'enjeu du défi frigo de ce matin. Deux recettes originales, vous voulez démarrer avec qui?
Avec Louise, l'honneur aux dames.
Ah ben voilà, monsieur. Mais c'est un élégant qui vous parle. Tony, soyez très attentif, elle dispose d'une minute trente pour vous faire rêver.
Mon cher Tony, je vous propose une tarte tatin aux oignons de Trébons. Alors pour ça, vous allez ciseler les oignons dans le sens de la longueur. Et ensuite, vous allez prendre une poêle qui va aller au four, parce que je vais vous rendre la vie facile, Tony. Vous allez faire revenir vos oignons dans cette poêle avec un petit peu d'huile d'olive, ajouter du miel, légèrement du sucre et un peu de vinaigre balsamique. Vous laissez, je vois Jean-Sébastien qui rigole, vous laissez dorer ça à feu doux quelques minutes. Ensuite, vous ajoutez un petit peu d'eau, vous laissez réduire parce qu'il faut que vos oignons cuisent. Donc vraiment quelques minutes. Vous prenez ensuite une pâte feuilletée. Et vous allez simplement recouvrir avec votre pâte feuilletée votre poêle en faisant des petits trous. Et vous allez mettre votre poêle, donc vous n'avez pas à faire beaucoup de vaisselle, vous avez vu. Vous allez mettre votre poêle au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Vous ressortez votre poêle, vous la retournez et... Tadam ! Ouais, je l'ai faite aussi. Tartatin.
Émission hyper produite. Hein. Vous avez remarqué des moyens surdimensionnés. Vous perdez un temps fou. En effet spéciaux, c'est dingue.
Et c'est
délicieux, je suis sûre que ça peut très bien aller avec le. Bah non, ça va pas sonner, avec le lapin au cidre.
Ah non, mais si vous avez fini, ça, on n'est pas obligé que ça sonne
bah
non
oui,
plus. Hein.
Tatin.
Ah, ah voilà.
C'est fini.
Ah, c'est ça, la fameuse tarte suspense. Tatatatin. Bon, une tatin d'oignon, Tony et sans voix.
Non, non, mais ça paraît très intéressant.
Oui.
En tout cas, ça change de l'usage habituel de l'oignon et ça peut être très très bien. Quoi.
Ouais. Mais vous savez que. Vous savez que devant cette tatin d'oignon, il y a quelqu'un qui ne va pas se désunir. Il y a quelqu'un qui a réfléchi longuement à la question. Oui. Et qui vous propose
qui étudié.
Ceci.
Mais écoutez, Tony, moi, vous allez
prendre vos étudier.
Vous allez prendre vos oignons de Trébons, vous allez les émincer et vous allez les faire étuver au beurre tranquillement dans une petite cocotte. Et puis, une fois qu'ils ont bien rendu leur eau de végétation, vous les déglacez un peu avec un petit trait de vinaigre de framboise. Pendant ce temps, vous faites cuire des œufs mollets. Les œufs mollets, c'est des œufs dans de l'eau chaude. Une fois que l'ébullition a repris, c'est 5 minutes. Vous écalez vos œufs mollets. Et puis là, vous préparez une panure à l'anglaise. Farine, vous roulez vos œufs dans la farine. Vous roulez vos œufs dans le battu. Et vous roulez les œufs dans la chapelure. Ces œufs, vous les faites frire 2 minutes dans de l'huile. Autour de 180 degrés, vous aurez des œufs mollets frits. Sur une belle salade frisée, avec une vinaigrette faite à base de moutarde de Brive, de vinaigrette de framboise et d'une belle huile d'olive, vous allez poser vos oignons de Trébons qui auront été étuvés au beurre et déglacés au vinaigre et vous allez casser l'œuf mollet ou deux œufs mollets. Allez, si vous êtes dingue, vous rajoutez deux cèpes poêlés là-dessus et vous avez une salade.
Si vous êtes dingue. Mais vraiment.
Vous hein, avez. C'est... Non, mais si vous trouvez des cèpes, en fait, si vous en avez, s'il y en a sur le marché. Et vous avez une salade qui est d'une suavité, qui est à la fois sucrée, moelleuse avec l'œuf et puis acidulée.
Intitulée salade.
Bah, une salade frisée à l'oignon et à l'œuf.
Une salade de dingue.
Si vous voulez, une salade de dingue.
Salade de dingue.
L'intérêt, c'est que l'œuf soit frit.
Je ne sais pas si c'est la salade qui est dingue, mais là. Il y a un problème.
Tony.
Oui.
À gauche, à ma gauche, une tatin d'oignon. À ma droite, une salade de dingue. Il va falloir choisir qui de Jean-Seb ou de Louise sera le vainqueur de ce défi frigo ce matin.
Décidément, je crois que je vais rester galant. Louise.
Ah, merci Tony.
Ah, mais je sens, soyez honnête, je sens que Tony n'a pas choisi sur la recette. Tony avait déjà fait son choix bien avant d'être à l'antenne.
Vraiment pas sympathique.
J'ai le sentiment que Tony n'appelait pas pour ça.
Mais si, j'ai du talent, c'est tout.
Tony
monsieur.
Appelait pour témoigner de son affection particulière pour Louise Petit-Renaud.
C'est vrai que Louise, plus la J'y tarte suis. À l'oignon, là, je dis que.
Ça s'appelle le combo moment. Idéal, monsieur. Cette phrase est magique. J'avoue que Louise, plus une tarte à l'oignon, suffiront à mon bonheur.
On sait me parler, moi.
Ah, exactement. Tony.
Oui.
Je ne sais pas qui vous allez emmener. Même si j'ai une
on
petite
va en
idée.
À
voilà. Je vous l'ai servi sur un plateau, celle-là. Puisque vous gagnez un week-end au château de Mercues, un château forteresse, relais château, qui domine formidable. La vallée du Lot, près de Cahors. Vous allez avoir en plus un repas au restaurant étoilé, c'est réservé. Le chef Julien Poisseau va s'occuper de vous et va vous faire découvrir sa cuisine autour des saveurs du Quercy. Vous allez voir, c'est un week-end absolument génial. Week-end étoilé au guide Michelin qu'on vous offre avec beaucoup de plaisir. J'ajoute qu'on vous a réservé en plus une visite des chais du château. Vous allez découvrir les grands crus Malbec, le cépage emblématique de l'appellation Cahors. Allez, jetez un coup d'œil sur châteaudemercues.com. Vous m'en direz des nouvelles. C'était une bonne idée de nous appeler. Enfin, c'était une bonne idée d'appeler Louise, Tony.
Un grand moment pour moi, merci beaucoup.
Je vous embrasse Tony.
Merci.
Ouais, vous avez tout gagné. Voilà. À très vite et passez là-bas, un très bon week-end.
Merci pour ce moment.
Grâce à RTL, vous régale. Allez, ça fait partie de ces chansons qui ont du sens, surtout en ce 11 septembre. RTL vous régale à de la mémoire, c'était il y a pile 20 ans. Renaud et Axel Red, Manhattan, Kaboul.
Petit portoricain. Bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solo gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela n'était jamais mis le courant.
Redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation,
les armées, drapeaux, les patries, les nations.
Inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Manhattan Kaboul, Renaud et Axel Red sur RTL. Et puis dans un instant, dans RTL vous régale, nous accueillerons l'un des jumeaux les plus connus de la cuisine. C'est Jacques Pourcel qui sera notre invité, qui sera quelque part un peu l'ambassadeur de Montpellier. À tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais il y a un instant, notre ambassadeur du jour dans RTL vous régale. Alors, normalement, est indissociable de son frère Laurent. Et c'est un privilège, nous le prenons comme tel, en tout cas parce qu'il a accepté de lâcher sa cuisine quelques minutes pour être avec nous. Et Dieu sait si chez les grands chefs, c'est compliqué. Je vous demande d'accueillir Jacques Pourcel, s'il vous plaît. Bonjour,
oui,
chef.
Bonjour
et bienvenue sur RTL. Comment allez-vous?
Bonjour depuis Montpellier. Eh bien, écoutez,
bonjour,
ça va.
On ne présente plus les jumeaux les plus connus de la cuisine, Jacques et Laurent Pourcel. On parle de Montpellier depuis 10 heures ce matin ou un peu plus sur l'antenne d'RTL. C'est toujours une bonne idée. Et c'est vrai qu'on avait envie de vous donner un petit coup de fil pour que vous nous emmeniez dans vos souvenirs de Montpellier. Les parfums de votre enfance, c'est souvent la même histoire, mais la première femme à qui on doit sa passion pour la cuisine, c'est votre cas, c'est votre mère.
Oui, c'est notre mère et notre grand-mère, parce qu'en fait, toutes les deux cuisinaient bien, et la cuisine d'ici, la cuisine de la côte méditerranéenne. Nous, on est nés à Agde, et donc chez nous, c'était les calamars, c'était les palourdes, c'était les sèches, c'est tout le poisson de Méditerranée, les huîtres du bassin de Thau. Donc on a été bercés là-dedans, quoi.
Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes donc un enfant de la Méditerranée. J'aime beaucoup la formule, vous avez grandi entre sable et terre. C'est un peu ça.
Oui. C'est un peu ça, parce que notre papa était vigneron, donc il faisait du vin du côté de Picpoul de Pinay, qui est une appellation assez particulière, parce que c'est une appellation qui s'adapte tout à fait à la cuisine de la mer et des coquillages.
Est-ce qu'on parle souvent aujourd'hui, parfois c'est un peu galvaudé d'ailleurs, de cuisine méditerranéenne? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, Jacques Pourcel?
Pour moi, la cuisine méditerranéenne, c'est d'abord tous les pays qui entourent le bassin méditerranéen. Mmh. Donc, c'est pas simplement la cuisine de Provence ou la cuisine espagnole, italienne. C'est aussi la Grèce, c'est aussi le Maroc, c'est aussi la Tunisie. Donc, c'est vraiment des couleurs, c'est des saveurs, c'est des épices.
L'huile d'olive, bien sûr, et la tomate, et puis et tout ce qui touche aussi les produits de la Méditerranée, c'est-à-dire de la mer, quoi. Voilà.
C'est une façon, donc, c'est une façon de manger, c'est une façon de s'installer à table, c'est une façon d'entrevoir le principe du repas.
Oui, c'est très convivial, la cuisine en Méditerranée. C'est une cuisine de partage. C'est une cuisine, c'est-à-dire quoi, c'est une cuisine du cœur, cuisine du soleil. Moi, j'en reviens beaucoup. Une cuisine que j'adore, c'est la cuisine libanaise, par exemple. On n'hésite pas à mettre les mains dans les plats, à manger avec les pains traditionnels. Pour moi, c'est ça, la cuisine méditerranéenne. Et puis, on arrose d'huile d'olive, et puis voilà. Et puis, après, toutes les épices, bien sûr. Les épices qui donnent du goût à notre cuisine, notamment le safran. Ici, nous, dans la région, beaucoup le safran. Mmh.
Vous avez commencé avec le jardin d'essence à Montpellier. Vous êtes parti, vous avez essaimé, vous avez exporté votre cuisine partout dans le monde. Mais systématiquement, vous revenez à Montpellier. Et c'est le cas en ce moment avec un nouveau restaurant, avec un nouvel endroit, un nouveau lieu. Montpellier, c'est magnétique pour vous ?
Oui, Montpellier, c'est très attractif pour nous. On a nos racines ici, on a notre famille. Et puis, il y a cette ville, l'ambiance de cette ville est très particulière. C'est une ville, bon, de taille moyenne, mais ça a cet esprit de village. Où les gens sortent beaucoup dans les restaurants, les terrasses sont pleines, les bars, les jeunes font la fête. Donc c'est très convivial, c'est vraiment une ville du sud, entre Espagne et puis la Riviera finalement. On est un peu entre les deux, on mélange un peu.
Montpellier, c'est quoi votre souvenir d'enfance ? Le plat de votre enfance ?
Le plat de notre enfance, pour moi, c'est les encornets farcis. Ah. Ma mère et ma grand-mère faisaient ça merveilleusement bien, avec une sauce un peu à l'américaine, un peu très avec des carcasses de crustacés, et puis les encornets farcis. Bon, à cette époque-là, on les farcissait avec la viande. Nous, les plats qu'on refait maintenant, c'est plus à la viande, mais c'est aux légumes essentiellement, et c'est vraiment un régal. Donc c'est des plats pleins de saveur.
Jacques Pourcel, c'est important de dire combien Montpellier est aussi une ville porte-bonheur pour vous. C'est la ville de votre réussite, c'est la ville qui vous a vu acheter un jour une bâtisse dans une vieille demeure, hein, pourquoi, pour 50 000 francs de l'époque.
Oui, c'est ça, en fait on était à trois associés, on a mis 50 000 francs chacun, donc voilà, donc avec ça on a commencé à mettre de l'argent dans une bâtisse et on a entrepris des travaux tous en famille, et puis voilà, on a créé le jardin d'essence, et ça fait maintenant, ça fait une ville qui a existé 28 ans, hein, donc qui est monté au sommet des étoiles, et voilà, et puis l'attachement à cette ville, il s'est fait aussi par les rencontres. Montpellier existe aussi par ses tables et par sa gastronomie.
Vous avez dit, il y a effectivement Jacques, il y a Laurent, et il y a le troisième qui a mis 50 000 francs au départ, c'est le troisième mousquetaire, c'est Olivier Château, qui est la troisième partie de cette trilogie indissociable.
Complètement. C'est-à-dire que nous, quand on a démarré très jeune, donc bon, on était totalement concentré sur la cuisine. Et Olivier Château, qui lui avait une formation de sommelier, les Charentais. Et donc lui, il a toujours été le lien entre nous et les clients. Le lien indispensable qui fait qu'à un moment ou un autre, les clients aussi s'attachent à une maison à travers les personnes qui y sont dedans.
Bien sûr. Jacques Pourcel, pour terminer, et ce sera ma dernière question, c'est plus une nouvelle qu'une question d'ailleurs. Vous revenez sur Paris, c'est confirmé ?
Oui, donc arrivé sur Paris, normalement fin octobre, début novembre, dans les galeries Lafayette et boulevard Haussmann, avec un restaurant 100% méditerranéen.
Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir goûter chez vous le midi, par exemple, sur le boulevard Haussmann ?
Ah, on va faire, par exemple, toute une carte de croquettes, on va faire des plats qui vont changer chaque semaine à partager. Alors, une fois, ça sera la tagine, une fois, ça sera la paella, une fois, ça sera les encornets farcis. Puis après, il y aura une partie épicerie avec tout plein de produits de la Méditerranée qu'on pourra acheter sur place et prendre chez soi. Donc
Il sait nous parler, Jacques Pourcel. Les croquettas. Bon, il a dit croquettas, j'étais conquis déjà. Bon, voilà, on va venir vous voir très vite, en tout cas, soyez-en certains. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous embrasse.
À bientôt.
Merci.
Merci.
Bientôt, au revoir, chef.
Au revoir.
Alors, dites-moi, ma petite croquettas, Jean-Sébastien, dans un instant, un petit pas plus loin.
Oui.
Un petit pas au-delà de Montpellier, nous irons en Égypte.
Du côté d'Alexandrie.
Et je me demande encore, quel lien il peut y avoir entre Alexandrie
et Alexandra.
Ah non. Je suis désolé. Ils sont en forme aujourd'hui.
Je suis sincèrement désolé. À tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et comme tous les samedis dans RTL vous régale, on va terminer cette émission avec le petit pas plus loin de Jean-Seb. Si vous vous demandez où nous allons ce matin, indice en bas de l'écran.
Oh non, c'est pas possible.
En trois briques.
Qu'est-ce qui fait Mironton, qu'est-ce qui fait Margéline?
C'est ça.
Oh, la pyramide.
Allez, on vous emmène en Égypte. Alors, rapport entre Montpellier et l'Égypte, va falloir qu'on soit très attentif. Jean-Seb raconte.
Petit pas un peu plus loin qui nous emmène donc en Égypte, plus particulièrement à Alexandrie. Une ville méditerranéenne, véritable porte d'entrée de ce pays incroyable qu'est l'Égypte. Elle a été fondée par Alexandre le Grand, 3 siècles avant notre ère. Il y installa la capitale de son empire. À sa mort, son général, Ptolémée, reçoit l'Égypte en héritage. À partir de là, une dynastie de monarques règne sur l'Égypte pendant plus de 3 siècles. Alexandrie est le haut lieu des sciences et du commerce entre l'Orient et l'Occident. Alexandrie éclaire toute la Méditerranée de la lumière de son phare, considéré comme la 7e merveille du monde. C'est à Alexandrie que Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, épousa son plus jeune frère et joua à séduire César et Marc-Antoine, avant de se suicider en se laissant mordre par un serpent. Au début du 15e siècle, Jacques Cœur avait installé un de ses comptoirs commerciaux à Alexandrie. Les échelles du Levant longeaient tout le Maghreb, les côtes du Moyen-Orient et de l'Anatolie. Il fit de Montpellier le centre de ses affaires pour le rayonnement culturel de la ville. Il fut à l'origine de sa richesse et de son rayonnement, alors que le royaume français était ravagé par la peste. Trop de réussites suscita des jalousies. Et le grand argentier de Charles VII finit presque aussi mal que Cléopâtre. Il mourut sur une pauvre île grecque, celle de Chios, après avoir été banni du royaume de France.
Ce qui s'appelle manquer de nez.
C'est clair.
Merci Jean-Seb. C'était le petit pas plus loin qui nous emmenait en Égypte. C'était sympa cette balade à Montpellier,
ah,
à vos côtés, les amis.
Génial,
vraiment. J'ai pris
adoré.
Beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, qui êtes à l'écoute d'RTL ce matin, et que vous passez un très bon début de week-end avec nous. On va où la semaine prochaine, les copains?
Nous partons à Meaux, ouais. Le pays de Meldois.
Tout ce qui brille n'est pas or.
Oui.
Souvenez-vous de ça. Oui. On va retrouver Jade et Eric Dussard dans quelques instants. On refait la télé. C'est Anne Roumanoff qui est l'invitée de cette émission. On vous fixe rendez-vous donc samedi prochain aux alentours de 10h après le flash de 10h. Passez un très bon week-end. Je rappelle que RTL vous régale est à réécouter sur l'application RTL. Très bon week-end à tous. À la semaine prochaine.